Arpentaire, une émission du Zoom Écologie, tous les deuxièmes jeudis du mois, sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Ok, et ben salut tout le monde, on aurait qu'à commencer. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver en cours de route, mais comme il est déjà 40, on aurait qu'à se lancer. Du coup, là, on se retrouve pour un atelier ou séminaire autogéré. On a appelé Blanchité, comprendre et trahir depuis et hors de l'université. Et on a avec nous aujourd'hui Léna Dormeau, qu'on remercie beaucoup d'être venue.
Et donc, Léna Dormeau, tu es chercheuse indépendante. Tu travailles sur les maths studies, sur les blanchités.
Et du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton parcours pour qu'on comprenne un peu d'où tu parles? Quels ont été tes liens passés avec l'université et ton choix aujourd'hui d'être hors de l'université, et un peu quels sont les liens de ces décisions-là avec tes thématiques de recherche que sont les maths studies et les blanchités.
Évidemment, les questions, elles font sens, et en même temps, c'est dur pour moi d'y répondre parce que précisément, je ne suis pas universitaire. Donc le truc de la question sur mon rapport à l'université, bon, je peux raconter un peu mon parcours. En plus, on me le demande souvent, donc comme ça, ce sera fait une bonne fois pour toutes. Mais en même temps, il ne me permet pas de répondre entre guillemets, aux autres questions. Moi, je suis donc ce qu'on appelle chercheuse indépendante, qui est un titre que j'ai récupéré du Canada, parce que les Canadiens et Canadiennes, ils ont en général 15 piges d'avance sur nous, sur pas mal de trucs. Alors, il y a plein de sujets au Canada aussi, hein. Mais là, au plan institutionnel, universitaire et de la recherche, et surtout moi, dans les questions santé, politique, colonialité et tout. Ils ont quand même l'Amérique du Nord. Il y a quand même c'est quand même une autre énergie. Et donc, du coup, je suis allée il y a quelques années au congrès annuel des sciences humaines et sociales du Canada. Et je bredouillais un peu sur ma condition. Je m'inventais un peu une vie. J'étais là, oui, j'ai commencé une thèse, mais en fait, j'ai pas payé les frais d'inscription. Du coup, je suis pas tout à fait. Bon, j'ai jamais été inscrite en thèse de ma vie. Donc, du coup, c'était un peu chercher un truc et tout. Ils en ont rien à foutre. Ils m'ont dit, ah oui, t'es chercheuse indépendante. Je dis, oui. Et ils m'ont dit, ça veut dire que tu fais de la recherche, mais sans affiliation institutionnelle. Tu fais ta vie dans ton coin, toute seule, bénévole. T'as pas juste là, ouais, c'est ça. Bon, bah voilà, ok. Très bien. Bon, bah, chercheuse indépendante. Ce qui pose par ailleurs aussi tout un autre pan de problèmes. Je sais pas si c'est un problème, mais des questions de catégorie dont on reparlera aussi. Qui est que quand je rencontre d'autres personnes qui usent de cette catégorie d'autodésignation, c'est souvent pour dire, et ça on va y revenir, qu'ils et elles ont fait une thèse et n'ont pas souhaité ou n'ont pas pu ou n'ont pas réussi à accéder à des postes universitaires par la suite. Donc souvent, les chercheuses indépendantes, à l'heure actuelle, dans le monde, dans le paysage institutionnel francophone, ça va être des thésées. Non titulaire ou non en poursuite de post-doc, etc. Encore une fois, ça, on peut y revenir soit par choix, soit malheureusement, parce que le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche est en plein naufrage. C'était déjà le cas. Mais en fait, là, évidemment, que les coupes budgétaires, etc., je vois pas bien à quel moment dans les prochaines années on va arriver à quelque chose de plus soutenable, mais vous savez bien mieux que moi que c'est compliqué. Donc ça, c'est le premier point. Parfois, chercheur, chercheuse indépendante, c'est plus à ça que ça renvoie, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai fait des... Je ne veux pas m'inventer une vie non plus. Hein. J'ai un bagage, je veux dire, j'ai fait des études supérieures. Ça a été toujours compliqué pour moi. Je fais le lien avec l'autre question, mais j'y reviendrai aussi. Du coup, moi, je suis philosophe, je suis chercheuse en maths studies, donc ça n'existe pas dans le paysage francophone, donc il n'y a pas de traduction, mais en gros, en études folles, qui est du coup se distinguer d'études sur la folie ou de la folie, par exemple, c'est pas de l'histoire de la folie, c'est pas de la sociologie de la santé mentale, c'est pas, voilà, c'est le questionner la question de la folie à partir de la folie elle-même, donc j'en reparlerai tout à l'heure. Mais du coup, pour ces raisons-là, moi, mon parcours personnel, il a été compliqué, il a été jalonné de beaucoup de problèmes de rapport à une autre institution qu'à l'institution psychiatrique, qui est un grand sujet. Donc moi, j'étais longtemps en psychiatrie, comme on dit psychiatrisée. Moi, je dis folle, j'utilise folle comme vocable, j'ai pas de sujet avec ça. On l'emploie en math studies et dans les champs antipsychiatrie, abolitionniste, radicaux, dans lesquels je m'inscris, FOL, qui est la version donc épicène, avec une troncature, donc un astérisque, pour l'inclusivité. Donc moi, je considère que je suis folle, et voilà, j'ai passé beaucoup de temps à psychiatriser, j'ai passé beaucoup de temps en cure de désintoxication, j'ai passé beaucoup de temps en post-cure de désintoxication, j'ai passé beaucoup de temps dans des endroits compliqués qui n'étaient pas la fac. Donc, en fait, j'ai fait un espèce de truc. À la base, j'ai une licence. Je balance tous les dos. Je le dis une fois comme ça. À chaque fois, on me demande. Donc, ce sera enregistré. Je raconte mon parcours. Après, j'en parle plus. Moi, j'ai une licence d'infocom à Rennes 2 que j'ai eue il y a 18 ans, genre. Enfin, vraiment. Donc, je suis une grande personne et tout. Donc, vraiment, voilà. Puis, j'ai. Bref, en plus, à l'époque, j'étais, comment on appelle, à Jacques. Enfin, j'avais pas mes années. Enfin, vraiment, je suis. Pour être très honnête, c'est pas la fac qui m'a appris des trucs. Donc à la base, j'ai une licence d'infocom que j'avais fait pour je ne sais X raisons. J'avais pas été prise en socio, en philo, on m'a dit que j'étais trop bête, bon, bah, truc comme ça. Et après, j'étais venue à Paris à l'époque. J'avais des bonnes notes en sciences humaines et sociales, par ailleurs. Alors tout ce qui était com et tout, c'est pas mon truc, mais en SHS, ça m'intéressait. On pouvait faire des passerelles où j'ai pu faire un master de socio, alors que j'avais une licence de com dans pas la même ville. Ça, c'était possible à l'époque, mais ça n'existe plus. Et du coup, je suis venue à Paris faire un master de sociologie de la santé et spécifiquement sociologie de la santé mentale. Donc j'ai fait ça, mais du coup sans licence et tout machin. Et après, j'ai voulu faire une thèse en socio, un mix entre socio-philo, en gros ce que je fais aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, alors ça c'était le grand sketch, j'avais proposé un terrain. Allez, en philo, il n'y a qu'en philosophie, ce qu'on appelle éthique et morale, qui est de la philosophie pratique, qu'on peut faire un terrain. Et en fait, on m'avait dit que mon sujet était trop philo. Alors que je venais de la socio, et quand je le présentais en socio, on me disait que c'était trop philo pour faire de la socio, enfin le truc, bon, voilà. Et donc après, bref, voilà, vie privée compliquée, donc j'ai jamais réussi, et j'ai repris sur le tard, 4 ans plus tard, un master 2 en philosophie politique, que j'ai tapé en un an, en allant pas en cours, enfin des trucs, enfin, ça n'avait aucun sens et tout, pour faire une thèse en philo, donc il fallait une mention très bien, donc j'ai eu ma mention très bien, blablabla. Donc j'ai fait tous les codes qu'il fallait bien faire pour machin, et j'ai représenté globalement le même projet de thèse que 4 ans avant, en disant, j'ai une mention très bien en philopo, plus sociologie de la santé mentale, est-ce que maintenant on peut y aller et tout. Et on m'a dit, oui, mais non, mais en fait on vous a pas dit qu'il fallait... J'étais là, non, franchement, là, trop, stop, ça suffit. Et j'ai commencé à faire de la recherche indépendante, c'est-à-dire, je le nommais pas comme ça à l'époque, mais j'ai juste, moi ça me saoulait en fait, et j'ai juste commencé à faire des recherches dans mon coin. Et après, à chaque fois qu'il fallait être affilié, je disais que j'avais commencé une thèse, mais que j'avais pas encore payé les frais d'inscription, du coup j'étais pas encore tout à fait inscrite en thèse, donc les gens ils étaient quand même un peu gentils, donc... bref. Tout ça pendant des années, et à un moment juste, j'ai vraiment lâché l'affaire. Je suis allée au Canada, j'ai été prise au congrès annuel des sciences humaines et sociales du Canada sur une proposition. Je suis allée là-bas, je suis revenue avec dans mes valises le fait que je sois chercheuse indépendante et foutez-moi la paix. J'ai commencé à faire mes trucs dans mon coin, et bref, avance rapide, j'ai quand même pas mal publié dans des revues universitaires. À force, j'ai réussi à avoir un espèce de passing universitaire, c'est-à-dire que tout le monde pense que je suis universitaire. J'ai des problèmes de bourge dans la vie, c'est donc je reçois des mails qu'on me propose des postes, on me propose d'encadrer des thèses, je suis là, genre, je ne suis personne. Et on va revenir, du coup, je boucle quand même avec le sujet, c'est que pour en arriver là, j'ai quand même prêté allégeance à l'institution d'une certaine manière, c'est-à-dire en jouant le jeu précisément de ce qui pourrait faire en sorte que je sois acceptée dans ces milieux-là. C'est-à-dire que j'aurais pu faire le choix vers lequel je me dirige plus aujourd'hui, mais c'est toujours le sujet, en fait. Il faut avoir une forme de privilège et de sol, c'est-à-dire d'assises stables pour pouvoir quand même, à un moment donné, prendre des décisions qui sont un peu plus légères. Il y a ce truc de qui n'a aucun sens, de validation par les pairs. Moi, c'est un grand sujet, ce truc de... Quand on dit le peer reviewing, mais qui sont tes pairs ? PAIR, hein, j'entends, on le répète quand même. Mais... Parce que vraiment, en fait, moi, quand j'ai commencé à soumettre à des revues, en plus, là, on ne parle pas de syndrome de l'impostrice, c'est-à-dire je suis une impostrice. Moi, j'ai écrit mon premier article scientifique en 2018, maintenant. Enfin, il est paru en 2018, donc je l'ai écrit il y a 10 ans, quasiment, avec ce gros enjeu d'impostrice de « faut pas que je me loupe », c'est en philo, « faut pas que je me loupe ». Donc, vraiment, tout était à la virgule. Enfin, c'était vraiment mon enjeu, c'était si je me fais taper parce que je ne suis pas une vraie chercheuse, ce qui est le cas, parce que du coup, je ne suis pas doctorante, je ne suis pas machin et tout, c'est fini pour moi. Donc, c'était vraiment, moi, mon enjeu, c'est devenu un truc complètement obsessionnel, de il faut que ce soit, genre, archi-archi-cali. Et c'est parce que j'avais fait un colloque, et que du coup, on faisait des actes de colloque, et j'avais la possibilité de publier. Et ce que j'ai fait dans cet article-là a été repris et développé, notamment par des philosophes, pour des concepts que j'avais développés et tout. Et à partir de là, on m'a dit, Léna Dormeau, elle est philosophe. Je demandais à dire chercheuse en philosophie, parce que philosophe, c'est un titre que j'ai pas le droit de m'arroger. Les philosophes, c'est les gens qui réfléchissent, qui ont fait une thèse. En fait, toujours le carcan. J'étais restée bloquée sur... En fait, et ça, on va y revenir, c'est le cœur du truc, c'est la question des catégories, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire d'être philosophe? Qu'est-ce que ça veut dire d'être chercheuse? Qu'est-ce que ça veut dire... c'est quoi la diff avec chercheuse en philosophie et pas machin? Et en fait, il y a un jour... De toute façon, les catégories, ça, voilà, c'est le sujet. C'est pas vous qui vous les auto-appliquez, en fait. À part quand c'est du retournement du stigmate, etc. Et c'est encore un stade supplémentaire. En fait, des catégories, ce sont des lieux politiques d'assignation. C'est-à-dire, on vous dit « t'es ça ». T'es blanc ou t'es non-blanc, ou t'es philosophe, ou t'es universitaire, ou t'es folle, ou t'es machin. C'est le principe même d'une catégorie. C'est-à-dire que la catégorie n'est là que pour vous assigner socialement et politiquement dans un ordre social, dans une structure, dans un système, donc, que le capitalisme racial, qui est la blanchité, qui est le sanisme systémique, enfin, tout un ensemble en fait, de codes et de normes qui ont été pensés par des personnes dominantes, parce qu'on a une ethnoclasse bourgeoise blanche, pour les dire comme ça, et qui a le monopole de la description d'un réel univoque, et qui dit il y a un réel qui est une norme qu'on incarne, et de l'autre côté, eh bien, il y a des catégories d'assignation qui permettent une forme de distinction en fait, fondamentale, une altérité radicale entre il y a nous et le fameux il y a nous et il y a vous. Donc nous, on vous dit bah, vous êtes ça, 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 ça. Et parfois, les catégories, et ça, c'est vraiment tout le grand sujet, c'est on les traverse, elles nous traversent, on les accepte, on les récuse. Souvent, il y a une tension entre ça, c'est-à-dire d'un côté, on les accepte et d'un côté, on les récuse. Il y a aussi des enjeux différenciés et différentiels, c'est-à-dire qu'on peut accepter une catégorie au plan social parce qu'elle décrit quelque chose. Moi, dire, par exemple, je suis une personne non blanche, c'est une catégorie descriptive, mais qui renvoie de fait à une catégorie d'assignation. Je pourrais dire, je n'ai pas envie, dans un monde parfait, ce qui ne veut pas dire grand-chose non plus, mais disons idéalisé, même plus qu'idéal, j'aimerais ne pas avoir à opérer cette distinction. Mais si je ne le fais pas, ça fait de moi ce qu'on appelle une personne colorblind, qui ne voit pas les couleurs, ce qui est un problème. Parce qu'en fait, la réalité concrète en termes de rapports sociaux, de race, de classe, de genre, de validisme et d'interaction et de rapport de pouvoir et de rapport de force continu qu'on a au quotidien, ben la réalité, c'est que je ne vais pas faire comme si j'étais blanche. Parce que ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce à quoi je suis renvoyée, ça produit des conséquences matérielles concrètes, affectives sur ma vie, sur celle des personnes avec qui je relationne, avec qui je suis en interaction, etc. Donc en fait, je ne peux pas faire l'économie de rappeler à cette catégorie-là qui, pourtant, est une catégorie d'assignation, donc à laquelle on m'a assigné, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que c'est un processus passif. C'est-à-dire on m'a assigné à cette catégorie, j'ai pas demandé ça. Et du coup, la question, c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces catégories-là. Et pour reboucler avec cette histoire de philosophe qui peut paraître un peu plus positif, entre guillemets. Alors, c'est pas faux, c'est-à-dire que je peux m'en saisir différemment, mais en fait, à un moment, j'ai arrêté de lutter contre ça. Bon, déjà, les catégories, ça reste malgré tout que des catégories. Moi, vous me googlisez, j'ai pas regardé depuis longtemps, mais en vrai, j'ai 1000 titres. Genre, en fait, c'est toujours... voilà, donc évidemment qu'à un moment, tu prends aussi ce qui te procure des conditions matérielles d'existence un peu plus... Voilà, en fait, il y a aussi ce jeu-là à jouer. Donc à un moment donné, où moi, je me suis quand même battue pour qu'on dise « Non, mais je suis pas vraiment philosophe, parce que machin... » T'as des philosophes, on va dire des vrais philosophes. Je suis pas une fausse philosophe, ça, mais voilà, des gens qui sont CNRS, qui machin et tout, qui m'ont dit « En fait, toi, t'écris des textes où tu produis des concepts qui sont repris par des philosophes, donc tu crées des concepts, c'est le taf d'un philosophe. » Ok, c'est quoi, moi, je vais pas... Stop. Et je vais pas mentir. Pourquoi est-ce que je le prends plus qu'un autre titre? Parce que ça me confère sur la scène sociale des formes de privilèges. J'aime pas forcément le terme tout le temps, mais une forme de gratification sociale et que je revendique. C'est-à-dire, je vais pas passer ma vie à me bagarrer pour un truc qui peut aussi m'apporter. Je veux dire des formes de confort à des endroits où il y a des rapports de force, je veux dire évidents sur ces questions catégorielles. C'est-à-dire, moi, je suis invitée aussi parce que je suis philosophe et que parfois, juste la catégorie, elle sème le flou. C'est-à-dire que juste cette catégorie-là, elle me permet d'évacuer la question que vous m'avez posée, à savoir quel est mon parcours. Les gens pensent que mon parcours, il est contenu dans la catégorie. Vous voyez ce que je veux dire? Dire « je suis philosophe », c'est ce qui est écrit. Je suis chercheuse en maths studies parce que c'est plus mon endroit affectif et on y reviendra. Mais en fait, en plus, c'est un mot. C'est pour vous dire à quel point la puissance de ce truc-là, en fait. Bah, les gens, ils se disent, OK, la meuf, elle a fait des études de philo, voire le fameux parcours d'excellence, CAN, IPO, CAN, normal, sup, machin, agrég, dont je suis, mais profondément éloignée. À minima, les gens pensent que j'ai fait une thèse ou que j'ai une agrég en philo, que j'ai un poste, que je suis maîtresse de conf, et que... Philosophe, c'est ça. Donc, il y a tout ce truc-là de qu'est-ce que ça veut dire un imaginaire. Quand on dit personne non blanche, enfin, voilà. Tout ça, c'est des narrations. Et du coup, je vais revenir à ça rebloque aussi avec ta question, c'est comment j'en suis arrivée à travailler sur ces sujets-là. Je ne vais pas refaire pareil tout le truc. Il y a évidemment plein de choses personnelles dont je reparlerai sans doute par petits bouts, mais sans non plus aller dans des formes testimoniales qui, par ailleurs, sont aussi parfois un peu intimes et tout. Mais moi, la grande question que j'ai, sur les questions de catégorie notamment, avec la question de la psychiatrie, ça se joue évidemment, c'est cette question de la narration, de la fabulation, en fait. C'est-à-dire, moi, mon travail, il s'origine à plusieurs endroits, parce qu'il y a des gens qui sont là, mais travaillent sur la blanchité, sur l'université, sur la psychiatrie et tout, mais c'est toujours la même question. Donc là, comme vous êtes rentrés, vous avez regardé tout le... Franchement, vous avez fait un vrai taf et tout. Ça, non, mais j'apprécie, parce que des fois, on est invité et c'est sur des sujets précis, et vraiment, vous avez... genre cartographier vraiment tout mon travail, et c'est hyper appréciable. C'est quoi mon travail, disons juste qu'il a plusieurs portes d'entrée, qui sont évidemment aussi des portes d'entrée charnelles, corporelles, quoi, qui me traversent, qui me façonnent au quotidien. Donc évidemment les questions raciales. Par ailleurs, moi je suis adoptée, donc ce qu'on appelle transraciale, donc pas transnationale, c'est-à-dire je suis née en France. Moi, je suis à l'ancienne, à l'époque, c'était la DAS encore, là, c'est la ZE aujourd'hui, mais la DAS à l'époque, machin. Mais je suis née en France, je n'ai pas eu d'adoption transnationale dans un autre pays, etc. Mais en tout cas, transraciale, parce que j'ai été adoptée dans une famille blanche. Donc ça, c'est un truc important aussi, moi, dans mon parcours personnel, dont je ne parle pas spécifiquement, je ne m'en cache pas, et j'en parle sur les réseaux, dans des trucs, des petits articles de blog, des trucs un peu plus épars, mais c'est pas le cœur de mon travail, parce que j'ai des collègues, camarades, amis qui font ça très bien, Amandine Gay, Joey Bourguin, enfin voilà, il y a d'autres personnes. Moi, celle-là, c'est des trucs intimes sur lesquels je vais pas, j'ai pas envie de produire du testimonial là-dessus. En revanche, au plan politique, ça fait sens, parce que moi, je suis blanche. Enfin, je veux dire, il y a ça aussi, c'est dans les questions que vous posez, c'est-à-dire que j'ai grandi en pensant que j'étais blanche. Ça c'est réel, quoi. Et j'ai un white passing, paradoxalement, au plan social et politique, ce que d'ailleurs Solène Brun, du coup, qui est pas là aujourd'hui, mais qui interviendra demain avec d'autres amis et tout, mais en tout cas, qui a bossé là-dessus. Je crois qu'elle a fait sa thèse sur les enfants adoptés transraciaux, transnationaux, et du coup, elle a produit des beaux textes là-dessus. C'est qu'il y a une forme de ce qu'on appelle donc, le white passing, on dit en anglais, donc le passer pour blanc, blanche, au plan, spontané, c'est-à-dire ressenti visuel, pour le dire comme ça, j'aime pas le truc, mais c'est-à-dire des personnes qui vont être ce qu'on appelle light skin, c'est-à-dire qui ne sont pas blancs en termes de catégorie sociale, en termes de questions d'origine, etc., mais qui passent pour blanc et pour blanche dans l'espace social et dans l'espace public, c'est-à-dire que spontanément, justement en termes de catégorie, ils ne sont pas assignés comme étant des personnes considérées comme non blanches, et à ce titre-là, ont des expériences de vécu social et interactionnel très différentes de personnes qui ne sont pas perçues comme étant blanches. Et c'est en ça qu'on mobilise la catégorie de blanchité et déblanchité au pluriel, parce qu'en fait, c'est la blanchité, c'est une matrice, hein, c'est un système, c'est un dispositif qui, en son sein, a plusieurs ramifications et modalités en fait, opératrices. Et l'une d'entre elles étant évidemment la façon, l'assignation raciale, ce qu'on disait, et ce à quoi elle renvoie et ce qu'elle charrie, comme la catégorie philosophe. À partir du moment où vous êtes dans la catégorie non blanc, non blanche, ben évidemment ça charrie avec tout son lot de projections, de discriminations, d'expériences du monde social vécu extrêmement différentes. Donc moi, j'ai pas ça au plan de dire je suis assignée racialement, ce qui est quelque chose qui est justement perturbant, etc. Mais par ailleurs, j'ai une forme de white passing social. C'est-à-dire que je me suis construite... Alors ça, c'est toujours un débat de est-ce qu'il y a une culture blanche. C'est pas tant une question de culture blanche, mais je me suis construite comme blanche au sens où j'estimais que les questions raciales ne passaient pas par moi, parce que n'ayant pas eu de culture... donc moi, je suis à moitié d'origine malaise. Quand en Malaisie, mais c'est aussi un autre sujet, parce que c'est un pays... aussi postcolonial, traversé par beaucoup de questions, notamment aussi religieuses, enfin, il y a la question de l'islam qui se pose, il y a plein de choses, mais moi j'ai vraiment, je me suis vraiment construite dans cette espèce de colorblindness aussi, avec le paradoxe et la tension que je pouvais ne pas avoir avec des privilèges blancs, d'être assignée racialement. Mais j'ai le truc, bon là, c'est la question de l'adoption transraciale, mais en fait, ça se retrouve beaucoup dans toutes les familles dites mixtes, alors qui pose tout un... La dénomination pose aussi tout un ensemble de problèmes, mais ce que Solène Brun a aussi très bien fait dans son dernier ouvrage sur défaire le mythe métis, justement, okay, qu'est-ce que ça signifie, en fait, le métissage, la mixité, etc. En tout cas, dans les familles considérées comme mixtes, donc c'est-à-dire avec au moins une personne blanche et une personne non blanche, pour le dire comme ça. Donc j'avais cette tension-là, c'est-à-dire la tension de... je vois bien qu'il y a un truc d'assignation raciale. Alors là, je le dis complètement rétrospectivement, c'est de la renarration. Je veux dire, à aucun moment je le disais comme ça. J'avais ces désirs de blanchité. C'est-à-dire que j'ai comme plein de petites filles, j'ai vraiment toujours rêvé quand j'étais petite d'être blanche. Pareil, c'était pas formulé comme ça, mais en fait, il y avait un truc de... Je sentais bien qu'il y avait des choses qui allaient être plus faciles. J'avais pas de représentation. Moi, je suis à moitié d'origine asiatique. En France, l'Asie, on a quand même un truc, c'est quand même comme l'Afrique, quoi. C'est ce grand pays qu'est l'Asie. Et en plus, moi, c'est un pays d'Asie du Sud-Est. La Malaisie, bon, c'est, avec le fait colonial, c'est des colonies notamment, bref, portugaises, puis néerlandaises, puis britanniques. Donc du coup, il y a de plus fortes communautés malaises-malaisiennes, notamment en Angleterre et en Hollande. Mais pas que. En France, c'est vraiment le désert, je dirais. Il y a très peu de diaspora, c'est peu reconnu. Je veux dire, l'Asie du Sud-Est, c'est quand même... Il y a le Vietnam, parce qu'il y a des diasporas en France, etc. Mais voilà. Pour les Français-Françaises, l'Asie, c'est quand même la Chine, globalement. Le Vietnam, parce qu'on a une histoire coloniale avec. La Malaisie, personne ne connaît. En plus, c'est un pays à dominante musulmane. Pas que, mais en tout cas pour l'ethnie majoritaire dont moi je suis issue, donc qu'on appelle malaise, qu'on distingue des malaisiens-malaisiennes, on peut pas faire un cours là-dessus, mais sont musulmans. Donc autant vous dire que quand t'es français, moi je suis bretonne en plus, et c'est vraiment une identité pareille que je revendique, parce que j'ai grandi là-dedans, j'ai la moitié de ma famille qui ont été à Diwan, qui parlent breton, enfin c'est un truc. Quand tu dis breton, sud-est asiatique, Malaisie, musulman, les gens vraiment, ils le vident dans leurs yeux, quoi. Genre, il y a un truc vraiment... Il y a Asie, Islam, Bretagne, genre, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Et du coup, faire du testimonial, ce que je dis tout le temps, je critique pas, c'est important d'avoir des représentations. Ce que je disais, nous, en France, vraiment, les représentations... Moi, j'ai jamais vu, quand j'étais petite, de représentations asiatiques en France. Enfin, je veux dire, il y avait... Lucy Liu comme actrice, il y avait Yoko Tsuno qui est japonaise, là, les bandes dessinées, là. Il y avait deux, trois trucs, mais en fait, c'était pas, ça représentait pas. Mais du coup, ça a du sens d'avoir des histoires, mais moi, je veux pas me raconter à titre personnel. Là, franchement, je l'ai jamais fait autant, là. Ce qui m'intéresse, c'est de tout ce qui m'a traversé depuis que je suis enfant et dans ma vie d'adulte, dans mon rapport aux institutions, parce que du coup, bah, moi, j'ai un rapport aux institutions. Bon, mais j'ai appartenu à l'État. Enfin, je veux dire, j'ai été pupille de l'État. La structure familiale, pour moi, c'est un truc. Enfin, je veux dire, en tant qu'enfant adopté, pour le coup, on a défoncé la structure familiale avant même qu'elle existe. On n'a pas besoin de repenser la famille nucléaire. Je veux dire, c'est pas un hasard si on y a 90% de la communauté adoptée, on est queer. Enfin, je veux dire, il y a un truc de... On a déjà... c'est même pas qu'on a déjà pensé, c'est qu'on a déjà impensé et dépensé la question de la race, de la question du genre, de la question de la famille. Enfin, nous, c'est des trucs, c'est pas... Quand je vous dis, moi, mon grand sujet, c'est les catégories, les identités. Mais moi, ça n'a aucun sens pour moi, en fait, les catégories. Je veux dire, la famille, on me parle d'histoire familiale, le truc du lien du sang, pas mon histoire. On nous parle de « oui, quand même, quand tes parents, ils t'aiment. » Nous, on a été abandonnés à la naissance. « Oui, mais machin, la France, black, blanc, beurre. » On a grandi dans des familles blanches où même nos darons, ils étaient racistes. Enfin, tu sais, genre, qu'est-ce que vous voulez qu'on... C'est pas mon histoire. Vos trucs de république laïque et de la famille et de l'hétéronormativité et de... C'est juste pas notre histoire, en fait. Et donc, du coup, ça, c'est un truc qui est hyper fort. Et donc, moi, mon interrogation, c'est quelles sont les structures sociales et politiques historiques qui ont permis de produire l'histoire de laquelle je proviens, pour le dire comme ça. Ma question, elle n'est pas auto-centrée. Je veux dire, moi, j'ai mon histoire, mais en fait, mon histoire, c'est pas mon histoire. C'est, moi, je vous dis, mon rapport aux institutions depuis le début, c'est... Des fois, les gens me disent « Ouais, t'as l'air énervé contre les institutions. » Frérot, genre, je me suis fait maltraiter par les institutions toute ma vie depuis seconde une. C'est genre, évidemment que j'ai un souci avec les institutions. Bon, si vous voulez psychologiser ça en disant que je suis névrosée de l'institution, si tu veux, moi, ça m'intéresse pas trop comme lecture. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, qui est mon histoire, mais qui est pas que... En fait, c'est ça, c'est que mon histoire, elle est pas que la mienne, et que c'est une histoire politique, que c'est une histoire globale, que c'est une histoire coloniale, et qu'en fait, elle doit être interrogée à l'aune de ça. C'est-à-dire ce que moi, ce par quoi je suis traversée et ce par quoi j'ai été structuré et qui me fait penser aujourd'hui, c'est-à-dire l'endroit à partir duquel je me pense et je pense le monde et je regarde le monde, en fait, est le fruit d'une histoire multiséculaire plus large au sein desquelles ma propre existence a émergé. Et je ne peux pas ramener à moi comme un truc de « je vais raconter mon autobiographie ». Moi, mon travail, pour revenir à la question, c'est là, ce que je vous disais sur la question des catégories, c'est-à-dire dans un monde idéal qui n'existe pas, on n'aurait pas à se présenter à partir des catégories d'assignation dans lesquelles on nous a mises. Et même s'il y a un retournement du stigmate, ça reste réactionnel. C'est-à-dire, on va dire, ok, c'est pas grave d'être queer, qui à la base veut dire quand même oblique, branlant, etc. Ok, je suis frics, ok, je suis folle, ok, je suis adoptée. En fait, c'est-à-dire que le jour où on arrêtera de faire ça, où on pourra arrêter de se définir à partir de catégories, c'est le jour où on aura défait le capitalisme racial et l'hétéropatriarcat, l'hétéronormativité et tout ce qui concourt au fait qu'il y ait une norme dominante et à partir de cette norme dominante, des formes d'altérité qu'il faut désigner par d'autres termes dans un geste de distinction. Mais que du coup, c'est cette question des catégories, pour moi, elle est centrale. C'est ce que je disais, c'est la question de... C'est une histoire, en fait. C'est une narration. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment la fiction coloniale du Nouveau Monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a trois gus en 1492 qui ont pris trois bateaux là et qu'on dit on va aller découvrir le monde. C'est-à-dire le monde n'existait pas avant eux. Ça c'est la fiction coloniale par essence. C'est-à-dire le monde, c'est comme on en parlait avec des camarades sur la France ou en tout cas les États impérialistes qui font des essais nucléaires dans des zones dites isolées. Il n'y a jamais personne ou rien. C'est le discours génocidaire d'Israël pour bombarder aussi la Palestine et le Liban. C'est-à-dire il y avait rien, il n'y a pas de population. Déjà, c'est faux. En plus, il n'y a jamais rien. C'est-à-dire il y avait une terre, il y a des choses qu'on poussait. Il y avait une végétation, il y avait une faune, il y avait une flore. En fait, c'est qu'est-ce que ça veut dire c'est désertique. Même le désert, c'est quelque chose. C'est une formation organique. C'est-à-dire c'est pas rien. Et de toute façon, le rien est quelque chose. Et en fait, ça, c'est une fiction vraiment proprement prédatrice. De dire avant nous, avant notre regard sur le monde, il n'y avait rien. Donc nous, on va venir peupler ça. Et avant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de peuple. Donc les mecs, ils arrivent et te disent ah, c'est l'Inde, alors que c'est grave pas l'Inde. Enfin, même ça, en fait, on peut presque, c'est genre c'est lunaire. En plus, ils font nimp. Et ils arrivent et disent on découvre les Amériques. Ben, non, il y avait la Biayala avant, en fait. Il y avait des populations autochtones au Canada, en fait. Il n'y avait pas rien, quoi. Ils ont repeuplé, c'est ça les colonies de peuplement en fait. Ils ont repeuplé quoi. Et donc la fiction, c'est ça, c'est toujours cette fiction-là. C'est pour ça que c'est historique et colonial, mais c'est la fiction des institutions. Moi, dans le champ des math studies, donc qui sont des études folles, et je vous dis qu'ils se distinguent par exemple de la sociologie de la santé mentale, dont je suis moi-même issue, dont je proviens, c'est de dire, c'est pas de porter un regard sûr en disant il n'y avait rien et on va porter une analyse. C'est de dire nous, en tant que folles, déjà, merci de ne pas nous retirer notre agentivité, on peut produire une réflexion sur nous-mêmes. On est capable d'avoir... alors, c'est toujours le problème. J'allais dire, moi-même, je fais des glissements de langage, c'est-à-dire la rationalité, ce qui est un sujet. Mais en tout cas, on est capable de produire un discours sur nous-mêmes. C'est juste, il ne rentre pas dans le carcan institutionnel, il n'est pas académique, c'est compliqué de... Voilà. Et en même temps, on a le paradoxe de vouloir être connu par l'académie pour faire valoir ça, parce que sinon, personne ne nous entend. Mais en même temps, mais c'est comme toutes les questions sur la whiteness, etc. Je veux dire, ça, whiteness studies, il y en a aux États-Unis parce qu'il faut quand même que le discours soit validé. Bon, ça, c'est le truc qui... C'est ce qu'il y avait dans les trucs qu'on a discuté en amont. C'est pour moi le vrai endroit de patinage et de tension. Et moi, je suis prise là-dedans aussi dans mon histoire personnelle et dans les math studies, c'est de dire on n'arrive pas à savoir si on se sent obligé de faire allégeance à l'institution, c'est-à-dire d'aller manger dans la main de qui t'a opprimé, parce que c'est ça le sujet, pour faire valoir ce que tu es et ce que tu fais, alors même que ce que tu es et ce que tu fais est précisément le lieu de la dénonciation et de la mise en critique de ça. Ou alors, pareil, est-ce qu'on ne peut pas aller à l'université pour créer des pôles de math studies et de whiteness studies, etc. Au moins, il y a un espace existant avec le petit kiff d'être à l'intérieur du ventre de la bête, etc., pour mettre en critique la bête elle-même à l'intérieur du dispositif. Ou est-ce que t'es là, genre, en fait, vous vous foutez de la gueule du monde, en fait. C'est juste que vous êtes en train de reproduire quelque chose parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à vous détacher de manière radicale d'être en extériorité pour produire une critique de l'institution. Et même moi, je suis beaucoup plus en extériorité que plein d'autres camarades et collègues et amis qui ont ce double versant-là. Et en même temps, ben, quand même, la moitié de mon CV, c'est que je suis invitée à la fac, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est, je rejoue un peu, moi, mon trope du blanchiment. C'est qu'en fait, les gens pensent que je suis universitaire, qui est une des raisons pour lesquelles, aussi, ça fonctionne pour moi. Enfin, voilà, je pense que le vrai enjeu de tension, il est là, mais c'est la question un peu, je le résume de manière extrêmement binaire, et je finis sur mon histoire qui est un peu plus légère. Enfin non, pas du tout. Pardon, spoiler. En tout cas, c'est plus roman, c'est pas juste moi qui parle en gesticulant dans tous les sens, je prends d'autres choses. C'est un peu binaire, mais c'est un peu le truc réformisme versus abolitionnisme, assimilationnisme versus marginalité. Enfin, en fait, c'est vraiment ce truc-là, c'est-à-dire à quels endroits ce sont des lieux de résistance et à quels endroits on est des courroies de transmission de ce qu'on dénonce. Et est-ce que ces endroits peuvent être les mêmes endroits ? Ce que je crois, ce qui crée une tension très difficile en fait à négocier, qui est que je crois que le lieu, les seuls lieux au sein desquels on peut mettre en critique ces choses-là, pas forcément de l'intérieur mais border, c'est forcément les lieux où on va être la courroie de transmission de quelque chose. C'est-à-dire que moi je crois sur la question de la reproduction, qui est un de mes grands enjeux, parce que moi j'ai l'angoisse personnelle de la reproduction dans tous les sens du terme, mais des rapports de domination que je critique notamment. En réalité, je pense que c'est inévitable et que ça fait partie du truc. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si ce que tu fais est dans la bonne position. Je crois que la question est de savoir est-ce que tu es prête à accepter que de toutes les façons, c'est un peu les questions de pureté militante, etc., ça passera forcément par toi. C'est ça qu'on appelle un système. C'est devenu un peu, on le dit très facilement maintenant dans les dernières années, ce truc de c'est systémique. C'est ça que ça veut dire systémique. Systémique, ça veut pas dire c'est super structurel, enfin si, mais c'est aussi infrastructurel et c'est surtout ça nous traverse. Quelque chose qui est systémique, une oppression systémique, ça veut dire elle passe par toi. Bien sûr, elle passe par toi. Sur les questions de la blanchité, si tu te poses pas la question de savoir si ça passe pas par toi, là, pose-toi des questions. Une oppression systémique, elle passe par toi. Donc en fait, la question qu'il faut se poser, c'est dans quelle mesure est-ce que tu es prête à accepter qu'elle passe par toi ? De quelle façon ? Et à quels endroits tu peux endiguer ça pour que ça fasse sens ? Parce qu'il y a quand même le sujet de... Après, chacune voit midi à sa porte. Pour moi, il y a quand même aussi le sujet de... Faut pas s'abîmer. Enfin, je veux dire, faut quand même réussir à rentrer chez soi le soir et pouvoir se regarder dans le miroir et dormir quand même un peu. Parce que le sommeil, c'est sous-côté, mais la vérité, faut dormir, quoi. Genre, vous voyez ce que je veux dire ? Donc... C'est bon. En fait, il y a quand même ce truc-là, c'est-à-dire vous vis-à-vis de vous-même. Il y a un moment, je pense, faut avoir une ligne qui fait sens par rapport à où vous voulez aller, quoi. Et du coup, je termine juste sur cette histoire-là, mais ça peut lancer le. J'ai noté parce que je suis dyslexique et des fois je me trompe dans le nom. Désolée. Il y a une très belle nouvelle de Ursula Le Guin. Du coup, qui s'appelle, je crois que c'est traduit en français. En tout cas, en anglais, c'est sûr, vous pouvez trouver les deux en PDF sur Internet. La nouvelle d'Ursula Le Guin, elle s'appelle « Ceux qui partent d'Omélas ». Donc du coup, juste pour faire rapidement, donc, je rappelle parce que c'est le sujet, enfin, moi c'est ma lecture aussi, mais Ursula Le Guin est blanche, c'est un très beau texte. Le texte, du coup, c'est une nouvelle, pour faire rapide, c'est le principe d'un monde dans lequel tout va bien. Genre vraiment... Tout se passe bien, les personnes sont heureuses, tout ce qui est dans notre monde considéré comme des pratiques qui peuvent être réprimées ou problématisées, etc. Le sexe, les prises de drogue, etc. Non, tout va bien. Et donc ce monde assez enchanteur fonctionne pour une raison, laquelle tous les habitants habitantes sont au courant, c'est qu'en continu, il y a un enfant un peu faible d'esprit qui se fait torturer en permanence. Il y a un enfant handi, pas la même valeur des corps et des vies hein, non plus. Les enfants n'ont pas trop de valeur, handicapés, pas trop de valeur. Cet enfant est torturé en continu pour permettre le maintien et la survie dans le bonheur et la joie de tous les habitants et habitantes d'Omélas. Donc ça, c'est la nouvelle d'Ursula Le Guin, parce que la question et le titre, c'est « Ceux qui partent d'Omélas ». Donc en fait, ça donne lieu à une réflexion donc, qui tient d'un philosophe qui s'appelle William James sur la vie morale, en fait, la portée morale qui devient une question de l'éthique et de la morale, c'est-à-dire comment vivre dans un monde en vivant sa meilleure vie dès lors qu'on sait sur quoi est bâtie la possibilité de notre propre bonheur et de notre bonheur collectif. Bon, c'est une nouvelle de science-fiction, bon, elle date, hein, mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Comment être heureux quand, voilà, c'est un peu la perspective de... Voilà, personne n'est libre tant que tout le monde n'est pas libre, mais en tout cas, chez Le Guin, les gens partent d'Omelas avec cette ligne de conduite morale qui est, c'est pas possible de penser un monde qui ne serait bâti que sur la souffrance des autres, desquels on mettrait des œillères pour nous pouvoir avoir le privilège de la vie bonne, pour le dire en termes un peu philosophiques. Et du coup, ça, un texte beaucoup moins connu, qui est une réponse, qui, voilà, c'est, là je me trompe tout le temps, de N.K. Jemisin, qui est une autrice écrivaine de science-fiction, mais pas que, africaine-américaine, qui a écrit un texte qui se veut un peu, oui, une réponse, qui s'appelle Oum Elat, ce qui reste et se battent. Et du coup, elle, dans son monde, donc elle reprend un peu le trope voilà, de Le Guin, etc., même si le nom change, etc. Et le trope, c'est de dire... bah ok, c'est bien d'avoir un point moral pour dire ah oui, non, mon Dieu, horrible. C'est abusé quand je le raconte. On dirait, je raconte grave mal les histoires. On dirait, je me moque et tout, alors que vraiment pas du tout. Mais je veux dire, le truc de ah oui, en fait, c'est impossible de, en termes éthiques et morales de penser à un monde de cette façon-là. Tout le monde se barre. C'est pour ça que je précisais tout à l'heure, Ursula Le Guin est blanche. N.K. Jemisin, qui est africaine-américaine, a dit c'est bien ma star, toi, tu peux te permettre de partir. Tout le monde ne peut pas partir, en fait. Et donc là, elle remet une pièce dans la machine avec une nouvelle que je trouve fantastique. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à lire les deux qui sont, enfin, en termes aussi de réflexion et tout, de production littéraire qui sont vraiment qualitatives. N.K. Jemisin a dit, ben, en fait, bien sûr que c'est insoutenable de savoir que ta vie ne dépend que de la torture d'autres personnes. Déjà, un, ce que je rappelais tout à l'heure, faut pas croire qu'on le fait pas déjà. Et que pour certaines personnes, en vrai, et pour certaines personnes, pour nous tous, en fait, faut quand même se le dire, parfois c'est pas si dur. Je veux dire, c'est facile, de... enfin facile, non, pardon, spontané de rappeler là à la Palestine et tout. Enfin, c'est-à-dire, et là, on l'a tous fait, hein. C'est ce qu'on fait quand, en fait, un soir, on est trop fatigué et on détourne le regard du SDF qui demande une pièce parce qu'en fait, juste l'intérêt. Voilà, il faut arrêter de, d'avoir une. On l'a tous fait à des échelles, des endroits différents, mais c'est ça que ça signifie, c'est-à-dire, bien sûr qu'on peut fermer les yeux. Il faut arrêter d'avoir une, voilà, une posture morale aussi, on l'a tous fait. Et on le fait à d'autres échelles. Donc elle dit, bah, en fait, déjà, c'est pas si compliqué que ça. En fait, factuellement, on le fait quand même beaucoup plus que ce qu'on a envie de reconnaître. Et secondement, on n'a pas tous la possibilité de dire « je me casse ». C'est le fameux, et là, du coup, le terme va aussi, enfin, c'est le fameux truc de, aussi d'Adèle Haenel et tout, on se fait, on se casse et tout. Et elle, dans sa nouvelle, N.K. Jemisin a dit, bah, en fait, il y a un personnage qui a, sa mère, elle est diabétique. Et elle dépend du fait que ses enfants viennent la voir tous les jours pour lui amener ses courses et son traitement contre le diabète. Et elle ne peut pas partir. Parce que là où ils partent d'Omelas, en fait, c'est aussi un monde où la question de, par exemple, se procurer ses médicaments et d'avoir la possibilité de l'aide, de l'entraide communautaire ne va pas être possible. Donc en fait, quand tu es pris là-dedans, qu'est-ce que tu fais? Quand tu sais que ta vie, ton bonheur sur Terre avec les tiens dépend de la torture permanente d'un enfant handi, mais qu'en fait... tu peux pas te casser, parce qu'en fait, t'es aussi pris dans des réseaux d'affectivité et de communauté qui font qu'en fait, t'es pas tout seul. Tu peux pas non plus juste partir comme ça, en laissant tout. Et qu'en fait, la question qu'on a... Alors ça, c'est un truc aussi de philosophie blanche. Hein, la question, la grande question morale éthique qui, en général, je vous dis, hein, omet quand même la question fictionnelle initiale qui est le colonialisme, quoi. Je veux dire, la traite négrière transatlantique, juste quand même, en fait. C'est qu'en fait, il n'y a pas une direction morale unique. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'ils disent non plus, c'est évidemment plus complexe, mais c'est aussi encore plus complexe que ça, en réalité. Ce n'est pas juste d'avoir des positions posturales pour dénonciation, je veux dire, performative, de dire quelque chose qui aurait une valeur et une conséquence matérielle, concrète, directe, dès lors qu'on l'énonce. C'est qu'en fait, des fois, tu es pris dans des réseaux d'oppression. Encore une fois, c'est ça que ça veut dire structurel, je veux dire complexe, à l'intersection de plein de choses où tu ne peux pas prendre des décisions aussi radicales. Et je termine et je boucle là-dessus, déjà pour dire que c'est... Je précise aussi, parce que c'est le sujet du jour, même s'il y en a d'autres, mais moi, c'est une de mes lectures, c'est que Ursula Le Guin est blanche, même si, encore une fois, j'adore cette autrice et j'adore ce texte, mais... Et N.K. Jemisin est africaine-américaine, donc pour moi, il y a quand même aussi cette lecture-là qu'on peut faire, c'est-à-dire, ben, c'est plus facile quand t'es blanc de dire « Khras, je prends mes... Ouais. » Des fois, t'es là, genre, c'est pas... C'est la question qu'on a pour... Voilà. 2027, qu'on a eu pour les législatives anticipées, en fait. Oui, là, il va falloir aller voter pour machin, un truc bidule. Ouais, mais nous, quand même, c'est pas notre ligne antiraciste. Ils sont un peu border sur les questions raciales. Ouais, mais là, on n'a pas le temps de réfléchir. Enfin, ok, donc on n'a pas le temps de réfléchir, donc on jette sous le bus toute la question raciale qui est notre quotidien. Ben, peut-être plus confortable pour toi de le faire de manière aussi radicale que nous, on a peut-être besoin d'y réfléchir. Là, le temps nous presse, donc on va le faire. Mais en fait, moi, je fais partie des gens encore... voilà, encore tendu des législatives, parce que c'est, en fait, on ne peut pas tous faire des choix aussi radicaux que ça sur ce présupposé-là. Et le deuxième qui rejoint, moi, mes préoccupations en études folles, qui sont pour moi aussi les mêmes préoccupations coloniales, c'est-à-dire que sur cette question de la fiction, de la découverte du monde, y a eu aussi la découverte de l'individualité, de la subjectivité, c'est-à-dire pour distinguer les sauvages. Le climax a été le 18e et les Lumières, quoi, de la raison éclairée blanche, il a fallu quand même donner des contours à un individu, donc qui se caractérisait par le fait d'être maître de. C'est le bout du bout de la propriété, quoi. Il y a la propriété privée et il y a la propriété de soi, c'est-à-dire on s'appartient, on est rationnel, etc. Sinon, on est des sauvages. C'est ça qui nous distingue des sauvages et de la sauvagerie, en fait, c'est le fait de s'appartenir. C'est-à-dire d'avoir d'être en possession de soi, d'être en maîtrise de soi, et de pouvoir en fait se distinguer de la barbarie, des indigènes, de l'indigénité, en disant voilà, on a une structure psychique qui fait de nous des individus cohérents, comme un grand tout, comme une structure solide, etc. Donc ça provient aussi de l'histoire coloniale, avec des ramifications aujourd'hui qui sont que tout débordement à cette individualité-là est réprimée aussi, notamment par la psychiatrie, qui est une forme d'institution aussi répressive, telle que peut l'être la prison ou les centres de rétention administrative. Donc il y a aussi cette question-là dans les nouvelles de Le Guin et Jamieson, c'est que l'enfant torturé en continu est un enfant. Alors moi je dis Andy parce que c'est mon vocabulaire, mais dans la nouvelle, je crois que je suis en anglais, c'est vraiment genre la traduction, c'est leur simplet, quoi, un peu simple d'esprit, quoi. Et le fait que ce soit mentionné pour moi a une importance, parce que c'est vraiment le truc de dire bon, qui est en fait sur la réflexion morale de qui est-ce qu'on peut sacrifier sur l'autel de l'éthique. Bon, les enfants Andy quand même pas tout à fait le même poids dans la réflexion globale sur ces questions-là. Donc, je m'arrête là, mais en tout cas, je trouvais que c'est aussi deux textes qui sont intéressants à desquels partir pour réfléchir en fait à ces questions-là, des choix qu'on fait, et pareil que ce que je disais sur ma vie personnelle, c'est-à-dire dans quel type de rapport de force on a été pris et mis. Qui nous permettent ou non de faire des choix, sachant que par contre, je crois fermement que c'est mouvant et qu'on n'est pas toujours emprisonné dans une forme d'écrasement et d'oppression. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on n'est pas toujours dominant ou dominé, c'est pas binaire, il n'y a pas des dominants et des dominés, et qu'on est quand même beaucoup plus fluide que ça, et qu'on peut être dominé à des endroits et dominant à d'autres, ce qui arrive pareil très souvent. C'est pour ça que je vous dis, on est la courroie de transmission de tout, que les dominations, elles prennent plusieurs formes, en fait, que là, en fait, même si c'est horizontal et qu'on discute et tout, en fait, je suis invitée pour prendre la parole, et je, voilà, il y a un truc évidemment de domination symbolique et performative qui est, je veux dire, évidente. On n'est pas à égalité, là, dans le rapport de force et dans la discussion. En fait, on est toujours dominant à certains endroits, et en même temps, en fait, là, entre guillemets, symboliquement, j'ai plus de poids parce que le rapport de force s'est fait de cette manière-là. Mais dès que je sors, on est à Aubert dans le 93, je suis une meuf non blanche, voilà, c'est bon. Ça. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est que ça, c'est toujours, vous faites trois pas, ça s'inverse tout le temps, en fait, le rapport de force, il est toujours en train de se déplacer.
Du coup, tu as codérivé ce numéro, la trahir la blanchité. Est-ce que juste avant de lancer les discussions, pour que ça aide à la discussion aussi au sein du petit groupe, tu veux nous dire un peu ce que ça veut dire pour toi, ça ? Si possible.
Ouais, bien sûr. J'essaie de faire restreint. En fait, on est parti d'une revue lancée dans les années 80 par notamment Noël Ignatieff, et j'ai oublié son comparse, et qui s'appelait Race Traitor, la revue, et qui avait ça pour ligne, en fait. C'était une revue destinée à des personnes blanches, en disant le seul geste que vous pouvez faire en tant que blanc, c'est de trahir votre propre race, en fait. Et c'était des contributions qui cherchaient à réunir des idées de qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire de trahir sa propre race, en fait. Et nous, on est parti de cette idée-là pour dire que, comme les questions, par exemple, les questions sexistes, les questions de validisme et tout, on est de la team, comme dit Renier Edo-Lodge, le racisme est un problème de blanc. En fait, c'est de dire, quand on dit, par exemple, la question du concernisme, ce qu'on appelle le concernisme, quoi, être une personne concernée, mais le racisme est censé concerner tout le monde, enfin, nous, c'est notre point de vue, et qu'à ce titre-là, au contraire, il est dangereux et problématique de laisser ce sujet aux personnes blanches, en fait, d'une certaine façon. Et qu'en fait, c'est aussi une forme de re-responsabilisation, de pouvoir dire aux personnes blanches que vous, là, pour le coup, je dis un vous et à nous, parce que je suis concernée à cet endroit-là, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas, dans une perspective politique et collective, nous laisser seuls face à ça. Et là, je rappelle encore aux législatives anticipées de 2024 et à l'hiver qui est en train de s'abattre sur nous et qui est déjà là pour les personnes musulmanes, les personnes migrantes notamment, aux États-Unis aussi pour les personnes trans, etc. Mais c'est le cas en France, mais ça se déploie différemment. En fait, on ne peut pas être laissé seul face à ça et on ne peut pas rapporter le racisme à cette question-là. Donc trahir la blanchité, c'est de dire, c'est ce qu'on appelle en anglais le « white accountability », c'est-à-dire la responsabilité blanche, c'est-à-dire à partir du privilège. Alors, j'aime pas non plus, on pourra débattre de ça, mais la question de privilège, en tout cas des avantages que confère le fait d'être blanc et blanche dans des pays ce qu'on appelle du Nord global, en tous les cas, qui confère une certaine forme de confort de vie quotidienne et matérielle et politique et sociale du fait même d'être blanc. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit en tant que blanc et blanche pour que la blanchité passe par vous et se perpétue. En tant que blanc et blanche, il suffit de ne rien faire et le système se perpétue par lui-même. Donc en fait, le seul moyen d'endiguer la marche active du suprémacisme blanc, en plus en grand retour à l'heure actuelle, en fait, c'est de trahir cette blanchité-là. Mais comme on avait... Voilà, là, c'est la question de dire aux hommes hétérocis, de trahir leur propre genre. Et tout. Enfin, c'est un peu toutes ces questions-là qui posent des questions aussi concrètes. Des vraies questions concrètes, c'est-à-dire jusqu'au bout, jusqu'où on peut aller et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, trahir sa race. Enfin, je veux dire, on se posait beaucoup des questions poussées à l'absurde, je veux dire. En réalité, on dirait à chaque blanc-blanche, dès que tu gagnes au-dessus de telle tranche économique, tu reverses des fonds à des assos antiracistes, etc. Bon, est-ce que ça inverserait vraiment la marche du monde ? Je suis pas sûre. Enfin, en fait, on sait aussi que c'est un trope aussi qui peut être poussé, voilà, c'est concrètement, mais c'est de dire... Déjà d'avoir conscience d'être blanc-blanche, et pas juste un espèce de truc déclaratif et performatif, ce que Sarah Ahmed décrit très bien justement sur ce truc de « ok, en fait, c'est pas, si c'est de dire... » Parce que maintenant, c'est la mode de l'énumération, quoi. C'est pour dire « je suis une femme blanche, bourgeoise, etc. » Oui, and so what ? Enfin, je veux dire, que s'est-il passé à partir de ça ? Rien. C'est d'avoir une conscientisation qui... Tout de suite, et ça, le marxisme l'avait déjà dit, quoi. En fait, c'est bien d'intellectualiser, de théoriser, mais ça reste un truc de bourgeois, c'est ce qu'il y a là, c'est de dire il faut que la prise de conscience aille de pair systématiquement avec une modalité d'action. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir conscience, mais en fait, on peut aussi se toucher la nouille pendant longtemps sur la prise de conscience de ça, et ça, c'est réel. Donc, en fait, il faut que ce soit simultanément que consubstantiellement, en fait, la conscientisation soit suivie d'effets immédiats. Et du coup, il y a un texte qui est vraiment bien dans le... Enfin, ils sont tous bien, mais dans le dossier que j'ai vraiment beaucoup aimé, qu'on a traduit de George Yancey, qui est un texte qui s'appelle « Look a White », donc « Regarde un blanc », où l'idée, c'est de renverser le geste du coup qu'avait proposé Frantz Fanon, qui était « Regarde un noir ». Et là, c'est de renverser le geste et de dire « Ok, bon, nous, on le fait spontanément. Quand vous rentrez dans une pièce... » De regarder, genre, est-ce que Sarah Ahmed appelle un océan de blanchité ? C'est-à-dire, moi, je sais, et là, je dis moi, je ne vais pas désigner les personnes, chacune se pense justement catégoriellement comme elle le souhaite. Moi, en tant que personne non blanche, ça me, surtout en ayant grandi dans des milieux blancs, ça me saute aux yeux. Le truc de look white, moi, je rentre dans une pièce, là, je suis dans les milieux antifa, parce que nécessité faisant loi, bon, il n'y a pas plus blanc que les milieux antifa français. Je rentre dans une pièce, je vais dans une AG, je peux compter à... Je veux dire, en une fraction de seconde, le nombre de personnes racisées qu'on est dans la pièce. Et ça, je sais que toutes les personnes racisées le font. On le fait. C'est un truc de spontané. Le travail, par exemple, pour les blancs-blancs, c'est que c'est... vous ne le faites pas spontanément. Ce qui est logique, ce n'est pas un truc, ce n'est pas une critique, en fait. C'est genre... voilà. Et ben, du coup, c'est juste de conscientiser ce truc de... ok, en fait, quand je rentre dans une pièce, est-ce que cette pièce est un océan de blanchité ou pas ? Est-ce que plutôt que de « look a black », je peux « look a white » en commençant par moi-même, si c'est le cas, quoi, et de se dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Là, quand j'ai fait ma compta, qui en général est très... hein ? Niveau ratio, c'est pas ouf. Qu'est-ce que ça produit ? Si je suis dans l'orga d'un truc, par exemple, et que je suis arrivée, et qu'en vrai, et normal, enfin normal, en tout cas, c'est... Voilà, quand on fait pas cet exercice-là, bah, c'est le principe de la blanchité, c'est qu'en fait, c'est une norme qui n'est pas questionnable. C'est ça, le principe d'un système, c'est que ce n'est pas remis en question, c'est une norme soi-disant neutre. Eh bien, tu t'arrives et tu dis « Ah, j'avais pas percuté, en fait, ouais, c'est grave un océan de blanchité. Là, j'ai invité des gens à prendre la parole. En fait, il y a deux personnes non blanches et, oh, zut, on va parler de racisme. » Et du coup, c'est un peu de se dire ben, « Qu'est-ce que moi, je peux faire pour inverser cette tendance-là » Déjà, encore une fois, juste le nommer. En général, ça met les gens maximal à l'aise. Mais en fait, juste de dire ben, « Peut-être dans nos propres orgas, peut-être là, les amis, on est en collusion de corps blancs. » Parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que les corps blancs, ils se collent les uns aux autres dans un élan. On parle toujours de communauté pour les autres, mais en fait, la plus grande communauté en France, c'est les blancs, genre. Faut quand même le rappeler. Avec cette tendance à vouloir se coller les uns aux autres. Vous savez, c'est le truc qu'on dit ça, beaucoup sur les Français. Pas que, mais beaucoup sur les Français. Moi, j'ai un gros sujet, les Français en Asie du Sud-Est. Mais... Voilà. C'est le truc de les expats blancs à l'étranger, dans les pays du Sud. Genre, c'est les seuls qu'on appelle expats, quoi. C'est pas des immigrés, des expats. Ils ont le droit à ça. Pareil, la catégorie, quoi. Je vous disais, la question de la force de la catégorie, la puissance de dire expatrié. J'ai vécu 6 ans en expat à Canberra. T'es là, genre... Stop. Et alors que l'autre, il a migré en galère dans d'un pays du Sud à un pays du Sud. Bon, c'est quand même pas la même catégorie, ça charrie pas la même chose. Mais du coup, c'est le principe de l'expatriation. C'est-à-dire, tu vas à l'autre bout du monde. Dans un pays qui est anciennement un pays colonisé, tu y vas en tant qu'occidental et tu te retrouves contre blanc. Tu peux pas ne pas questionner ça. Tu peux pas ne pas questionner ça. Et le truc de trahir la blanchité, c'est de dire quand tu reviens, ben alors c'est toujours compliqué parce que là je dis ça comme si il faut quand même à un moment donné que quelqu'un, quelqu'une te chope la veste. C'est ça aussi le sujet. Moi je suis dans des milieux militants depuis longtemps. Tout le monde sait c'est inconfortable et tout, mais moi je suis de la team. Je parle pas d'agression, on s'entend par contre. Hein. Je suis de la team. Il faut apprendre à se faire choper la veste et fermer sa gueule et se remettre en question. En fait, sinon, on ne va pas y arriver. Donc, les guerres d'ego, ça va à 2 minutes. Là, moi, je ne fais pas la meuf. Je me suis fait choper la veste 1000 fois sur des trucs. T'apprends à être humble. Il faut apprendre à se taire, à rentrer chez toi. Maintenant, il y a Internet, c'est bon, la famille, on fait ses recherches. Non, mais il y a ça aussi. Parce que ça, c'est la question qu'on a beaucoup eue pour post-MeToo, le féminisme et tout. Et qu'on a beaucoup aussi les questions blanches. Alors, pour les questions folles, Andy, n'en parlons même pas, c'est le désert. C'est le truc qu'on reprochait aux mecs hétérosis de. Pour plein de trucs, ils savent comment chercher, mais ça, tout d'un coup, ils sont là. Genre, on dirait le mème de John Travolta, là. Genre, je sais pas par où chercher. Alors que franchement, c'est documenté. La blanchité, c'est pareil. Les grandes questions qu'on a, c'est mais on cherche où, il y a quoi, on peut avoir des sources. Il y a des départements de whiteness studies aux États-Unis, en fait, juste. Maintenant même, je ne veux pas faire la promotion des IA, bon celle-là ça va encore, mais il y a des DeepL, des machins, vous pouvez traduire si vous ne parlez pas bien anglais. Enfin je veux dire, en fait, voilà, donc je pense qu'il y a vraiment ce truc de... Déjà, il faut mettre son ego de côté, vraiment il faut mettre son... Là, c'est pour ça que je vous dis, même moi, mon histoire personnelle, ce n'est pas une histoire personnelle, c'est-à-dire c'est toujours une histoire politique et collective, donc il faut apprendre à se faire choper la veste et qu'on nous dise, ben, en fait, à un moment donné, là, ce que tu racontes, c'est de la merde, que toi, tu rentres de tes vacances, de ton expatriation, de l'année, machin, t'es trop content et tout ce que tu veux, c'est raconter à tes potes et qu'en fait, plutôt qu'avoir un parterre de gens qui te demandent une soirée diapo, t'as la moitié de tes potes racisés qui disent, frérot, ça va pas ce que t'as fait, bah tu te fermes ta gueule et tu réfléchis à peut-être ce que t'as fait, c'était de la merde aussi, tu vois, désolé d'avoir niqué ton année. J'espère que tu m'as ramené un cadeau. On en reparle et tout en d'autres occasions, mais accepte d'entendre que le délire des blancs qui font des années de césure pour aller passer un an faire le tour de l'Asie du Sud-Est, stop. Franchement, en plus avec les débats sur l'avion et tout machin, genre, ne les laissons plus faire ça. Genre, je vous en supplie, quoi. Donc ça, pour moi, c'est le vrai truc. Trahir la blanchité, c'est ça. C'est déjà accepter qu'il y ait des pratiques qui sont normalisées, qui sont en fait des pratiques blanches. Qui n'ont jamais été nommées comme telles, alors que c'est le cas, qu'il faut remettre en question. Donc, c'est-à-dire qu'il faut accepter de les entendre. C'est comme les bails sur l'écologie. Hein. C'est ça, je vous apprends rien. Vous êtes, voilà, c'est le truc de... On vient te dire que tout ce que tu as toujours fait toute ta vie, il va falloir le reconsidérer. C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre son ego de téco. Parce que bien sûr, c'est difficile. Si on te dit toute ta vie, maintenant, là, tu n'utilises plus de plastique, tu ne manges plus ça, tu ne fais plus ça, tu ne te douches plus comme ça, tu ne te sapes plus comme ça, il faut devenir végé, il faut devenir vegan, faut machin. Normal, c'est difficile. Mais il y a des endroits, encore une fois, je vous dis, si on veut mettre en critique et changer les choses, il va falloir accepter qu'on est nécessairement les courroies de transmission de quelque chose. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait, parfaite, qu'on doit machin. Il y a un temps pour tout. Personne n'est né militant, personne n'est né avec la science infuse. Tout le monde a besoin de temps pour se mouvoir dans des espaces qui ne sont pas les siens. C'est difficile, on est traversé de multiples crises. Le temps ne nous attend pas, la politique ne nous attend pas, 2027 ne va pas nous attendre. J'entends ça très bien. Mais justement, même en prenant son temps dans l'intérieur, et c'est là où c'est la force des collectifs, parce que tout ce que vous faites à la fac et tout machin, où c'est d'être accompagné là-dedans, c'est que pour moi, le plus fort de l'amitié et de la camaraderie militante et politique, c'est de pouvoir dire aux autres, là, ce que tu fais, ça va pas, et il faut te déplacer pour que collectivement, on survive à ce qui nous arrive dans la gueule. Sinon, on va pas y arriver, quoi. Et nous, on a besoin de nos alliés blancs et blanches pour ça. Et du coup, on a besoin qu'à des endroits qui sont pour vous les endroits de confort, et ça va devenir difficile d'enlever le... Je vous dis, c'est, vous enlevez le sol sur lequel on s'est toujours tenu. Il va falloir accepter de dire, OK, peut-être je vais plus marcher au même endroit à partir de maintenant, quoi. Et ça, c'est super difficile, mais en fait, il faut avoir cette vision collective. Après, moi, c'est mon point de vue, c'est aussi la critique de l'individualisme, quoi. Mais en fait, il faut avoir cette vision collective. Donc, il faut regarder en face de quoi on a été façonné. On est quand même dans une période post-MeToo où sur les questions de genre, c'est quelque chose qui a été laborieux au sens littéral du terme, hein, pas péjoratif, mais je trouve qu'on a quand même... Il y a des backlash, hein, ça va aussi avec le mouvement, mais je veux dire qu'on a quand même réussi à faire. Enfin, je veux dire, il y a quand même des statistiques sur les... Je crois que c'est la dernière étude je crois que c'est l'INED, Marie Bergström, là, qui travaille là-dessus, sur la sexualité, les relations des jeunes, etc. De dire, bon, bah, je vais dire n'importe quoi, donc je ne me souviens pas des chiffres, mais en tout cas, il y a des parts conséquentes, notamment de jeunes femmes qui, finalement, estiment ne pas être hétérosexuelles, où il y a plus de tel type de pratiques. Enfin, en fait, il y a quand même quelque chose qui a bougé dans ce truc de « Ah, peut-être que le carcan dans lequel on a grandi, c'était peut-être pas ça ». Ce que je vous dis, je reviens toujours à ça, la fiction, c'était peut-être pas ça la catégorie. En fait, c'est peut-être que des catégories. Les catégories, elles sont là pour que vous vous y retrouviez nécessairement parce qu'on a tous, en tout cas on nous a vendu, besoin d'avoir un ancrage définitionnel. Parce que ça, c'est pareil pour moi, c'est le mythe de l'identité. On nous a dit, sinon, si vous n'avez pas d'identité, vous êtes perdu, vous n'êtes personne. Alors, moi, je ne crois pas. Je pense qu'on peut être autre chose, on peut être des existences beaucoup plus flottantes que ça, c'est pas si grave, quoi. C'est le principe de la fluidité. Mais du coup, on nous dit, il faut être dans ces catégories. Ça, c'est des fictions. Et ça peut être déconstruit, c'est-à-dire, c'est pas une critique, moi je kiffe en plus à moitié, mais genre, c'est le principe de l'astrologie. Enfin, genre, c'est vraiment le truc, de, vous savez, c'est comment on appelle l'effet Barnum. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, quoi. C'est en fait, tu auras toujours des catégories, un listing de trucs dans lesquels tu vas te retrouver. Genre, évidemment. Moi, je vous dis, à ce jeu-là, moi, c'est une partie de mon travail. Je rentre dans toutes les catégories du DSM, là, le manuel diagnostique et psychiatrique. Je veux dire, j'ai toutes les pathologies psychiatriques du monde. Parce que ça n'a aucun sens. C'est vraiment des trucs de... Je veux dire, si j'avais pas ma date de naissance, je rentre dans pas et je suis tous les signes astrologiques. Et du calendrier chinois aussi, tant qu'on y... Enfin, allons-y, quoi. Mais c'est à ça que ça sert une catégorie. Donc, on t'a dit, t'es hétérosexuel, t'es machin et tout. Et tout d'un coup, t'as un mouvement MeToo. T'as des formes en fait d'expression débordante au sens littéral, de déborder les catégories préétablies. Et puis hop, tu tapes des enquêtes démographiques et statistiques sociologiques 10 ans plus tard et tu te rends compte que les gens sont peut-être pas si monogames et peut-être pas si hétéros et peut-être pas si... What a surprise! Genre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est à ça que ça sert, quoi. Donc, alors pour la race, on ne peut pas le faire. Il y a d'autres sujets qui sont qu'en France, on n'a pas les statistiques ethniques, etc. Bon, pareil, c'est pas un scoop pour personne que les contrôles aux faciès, c'est ce genre de truc. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que c'est dur, mais que je pense que ça vaut le coup de s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire être blanc-blanche. Et ce n'est pas seulement un truc au sens littéral épidermique, évidemment, que c'est une catégorie sociale. Et qu'est-ce que... Dans quelle mesure vous vous inscrivez dans cette catégorie sociale et qu'est-ce qui pourrait faire qui être à votre mesure pour court-circuiter des éléments de cette catégorie sociale qui en réalité sont en votre pouvoir.